أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز الانتقام
یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں
Je viens de réciter les versets 33 à 38 de la sourate Az-Zumar. Allah déclare « Qui donc commet une plus grande injustice que celui qui ment contre Allah et celui qui rejette la vérité lorsqu'elle vient à lui ?» N'y a-t-il pas en enfer une demeure pour les mécréants? Mais celui qui a apporté la vérité, celui qui l'atteste comme tel, ceux-là sont les justes. Ils auront auprès de leur Seigneur tout ce qu'ils désireront. C'est là la récompense de ceux qui font le bien, de sorte qu'Allah leur enlèvera les mauvaises conséquences de ce qu'ils auront fait et leur donnera leur récompense d'après le meilleur de leurs œuvres. Allah ne suffit-il pas son serviteur? Néanmoins, il voudrait effrayer avec ceux qui sont en dehors de lui. Et celui qu'Allah déclare égaré, pour lui, il n'y a aucun guide. Et celui qu'Allah guide, il ne peut y avoir personne pour l'égarer. Allah n'est-il pas le puissant, le maître de la rétribution? Dans ces versets, Allah a déclaré au début qu'il y a deux types de personnes qui sont injustes. Des personnes qui commettent des excès contre leurs âmes, des personnes qui invitent leur propre destruction. Il y a tout d'abord ceux qui attribuent des mensonges à Dieu et qui disent qu'ils sont de la part de Dieu, alors que ce n'est qu'un mensonge. Et il y a d'autre part ceux qui rejettent la vérité. Il y a tout d'abord ceux qui attribuent des mensonges à Dieu et d'autre part, il y a ceux qui rejettent les prophètes véridiques. Ceux qui rejettent ces prophètes lorsque Allah leur envoie ces prophètes. Lorsqu'Allah donc leur envoie un prophète, il y a ce groupe de personnes qui le rejettent. Et ils disent à ces prophètes que vous êtes des menteurs et que vous n'êtes pas venus de la part de Dieu. Allah a évoqué ce sujet dans d'autres endroits, dans le Saint-Coran, dans la sourate An-Kabout par exemple. Au verset 69, Allah déclare وَمَنْ أَظَمُ مِمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ. Et qui est plus injuste que celui qui fabrique un mensonge concernant Allah ou qui rejette la vérité lorsqu'elle vient à lui? Le Messie promis, alayhi salam, déclare que l'imposture a ses limites et l'imposteur est toujours avili et humilié. Qad khaba man iftara. Et en s'adressant au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, Allah a déclaré que si tu nous attribues des mensonges, nous allons trancher ta veine jugulaire. Et il a déclaré وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Celui qui croit en ces paroles n'osera même pas attribuer des mensonges à Dieu. C'est-à-dire, Allah déclare, en s'adressant au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que le menteur et l'imposteur seront certainement détruits et nous allons certainement leur trancher la veine jugulaire et nous allons les avilir. Le Messie promis alayhi salam a déclaré que la personne qui croit en ces paroles n'osera même pas attribuer des mensonges à Dieu. Il n'osera même pas attribuer des choses qui sont fausses à Dieu. Si, par exemple, une personne se pose en simple employé de l'État, alors qu'elle n'est pas employée de l'État, elle sera envoyée en prison. Dieu, quant à lui, est-il incapable d'attraper l'imposteur, celui qui ment en son nom? Au lieu de le châtier, Dieu peut-il le soutenir? Si Dieu agissait ainsi, l'athéisme allait se répandre. Mais dans tous les livres d'Allah, il est dit que l'imposteur est détruit. Les propos de ceux qui rejettent le Messie premier l'Islam trouvent donc leur réponse ici. Si une personne se pose en représentant de l'État, si cette personne ment au nom de l'État, cette personne sera promptement punie si elle est attrapée. Mais si une personne se dit être de la part de Dieu, si une personne ose mentir et dire que je suis de la part de Dieu et qu'elle attribue des mensonges à Dieu, Dieu n'a-t-il pas la force de l'attraper et de le châtier? Voilà ce qu'Allah a déclaré, c'est-à-dire qui est le plus injuste que celui qui invente des mensonges à propos de Dieu. Il est impossible que les prophètes qui se disent être de la part de Dieu puissent commettre ces mêmes excès contre eux-mêmes, ou comment peuvent-ils attribuer une cause divine à leur communauté et qu'Allah ne les attrape point? Le fait qu'Allah ait évoqué ce sujet dans différents endroits du Saint-Coran est une preuve que c'est là quelque chose de fondamental. À savoir que, quant à ceux qui mentiront au nom de Dieu, ces personnes seront certainement châtiées par Dieu. Non seulement cela, mais quant à ceux qui rejettent la vérité, c'est-à-dire quant au deuxième groupe, eux aussi, ils seront châtiés par Dieu s'ils rejettent le vrai prophète qui est venu de la part de Dieu. Donc, ici, on a évoqué deux groupes. Ceux qui, d'une part, mentent au nom de Dieu, et d'autre part, il y a ceux qui rejettent celui qui est venu de la part de Dieu. Et ces deux groupes, ou les gens qui appartiennent à ces deux groupes, sont en train de commettre des excès contre leurs âmes. Quand ceux qui rejettent les prophètes disent qu'il a inventé ces paroles et que Dieu ne lui a pas accordé le statut de prophète, Allah répond que, quant à celui qui ment en son nom, il sera certainement attrapé par nous. Vous devez examiner les signes apportés par les prophètes et ces signes qui sont véridiques doivent être acceptés et vous devez accepter ce prophète. La Nabouwa est accompagnée de signes évidents et ce prophète jouit du soutien de Dieu. Et chaque jour, ces signes se manifestent davantage. Quant à ceux qui rejettent les prophètes, ils doivent se réveiller car ces signes sont là et sont évidents. On a fait pareille allégation à l'encontre des premiers prophètes, ceux qui sont apparus avant le saint prophète Mohammed, et on a fait pareille allégation contre la personne du saint prophète Mohammed, et aujourd'hui on est en train de répéter les mêmes allégations contre le Messie promis alayhi salam. Dans les versets précédents de la sourate Zumar, Dieu a déclaré que le saint Coran renferme un enseignement complet. Et il a déclaré qu'après cet enseignement complet, il n'y a maintenant pas lieu d'y objecter. Le Saint-Coran en lui-même est un très grand signe. Chaque verset, chaque parole du Saint-Coran est un miracle en soi. Et Allah a conseillé aux koufars de l'accepter. Mais en dépit de cela, les koufars ont rejeté le Saint-Coran jusqu'à ce qu'Allah ait donné des avertissements sévères jusqu'à ce qu'Allah ait promis un châtiment rigoureux. Et c'est là que ces gens ont commencé à accepter le saint prophète Mohammed de paix soit sur lui. Allah déclare que quand vous rejetez mes choisis, vous serez châtiés soit ici-bas ou soit dans l'au-delà. Le bon sens requiert que vous devez abandonner ce genre de comportement. Dans le verset suivant, il est dit que la taqwa est que vous devez générer en vous la crainte de Dieu. Et la taqwa et la crainte de Dieu signifient que vous devez accepter celui qui a été envoyé par Dieu et qui est accompagné de la vérité. C'est ainsi que vous allez progresser dans la taqwa, c'est ainsi que vous aurez du succès. C'est un autre signe de la véracité de ce prophète, à savoir qu'Allah accorde du succès au prophète. Dans la sourate Yunus, Allah déclare فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ. C'est-à-dire, qui est pire que celui qui attribue des mensonges à Dieu ou qui est pire que celui qui rejette ces signes? Certainement, les coupables n'auront point de succès. Donc, ces deux coupables n'auront point de succès. Il y a tout d'abord celui qui attribue des mensonges à Dieu. Il n'aura point de succès. Et quant à celui qui rejette un vrai prophète, lui aussi, il n'aura point de succès. Il est donc évident que ces deux groupes de gens seront certainement châtiés par Dieu. Tout comme je l'ai déclaré, il y a tout d'abord ceux qui font de fausses déclarations, ceux qui se disent être de la part de Dieu. Et d'autre part, il y a ceux qui s'opposent à celui qui a été envoyé par Dieu lui-même. Et toute personne douée d'intelligence peut comprendre cela. C'est pour cette raison qu'une personne parmi le peuple de Pharaon a déclaré « Wa in yako kaziban faralehi kazibu wa in yako sadikan yusibkum ba'd allazi ya'idukum bih. » C'est-à-dire, s'il est un menteur, alors ses mensonges se retourneront contre lui, mais s'il est véridique, alors certainement, vous serez frappé des calamités qu'il a prophétisées. Les musulmans qui ont rejeté le Messie qui est venu selon les prophéties du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, doivent donc réfléchir en ce sens. Les musulmans possèdent un livre complet, un livre qui est protégé, un livre qui jouit de la protection divine. Et les non-musulmans, en dépit de leurs efforts, n'ont pas pu trouver d'interpolation dans le Saint-Coran. Depuis 1400 ans, le Saint-Coran est dans le même état. Tout cela prouve que ces faits ne sont pas des légendes. Allah a informé les musulmans que le fait que j'ai réuni tout cela dans le Saint-Coran ne signifie pas que ce sont des légendes. Vous ne devez pas passer par la même situation des peuples d'antan. Allah a déclaré « La yuflihul mujrimoun ». Les faux prétendants n'auront certes point de succès. Certes, il peut y avoir de faux prétendants, mais ces gens n'auront point de succès. Que signifie le succès?
Ce
Le succès signifie que ces gens ne pourront pas répandre dans le monde entier leur message, tout comme le fait celui qui est venu de la part de Dieu. Certes, ces imposteurs peuvent avoir une petite communauté autour d'eux. Certes, ils peuvent amasser des biens, mais celui qui vient de la part de Dieu a un objectif spirituel. Il y a des prophètes qui sont venus, des prophètes qui soit ont apporté une nouvelle charia afin d'apporter une révolution spirituelle dans le monde, afin de rapprocher l'homme de Dieu, ou il y a eu d'autres prophètes qui sont venus revivifier les enseignements du passé afin de rapprocher les égarés de Dieu, afin de les rapprocher de Dieu par l'entremise de cette loi qui a été révélée auparavant. Si quelqu'un déclare qu'il est venu de la part de Dieu, mais qu'il n'arrive pas à atteindre ses deux buts, alors certainement il est en train de mentir au nom de Dieu. S'il n'arrive pas à faire progresser les gens de leur spiritualité, s'il n'arrive pas à guider les gens afin qu'ils se rapprochent de Dieu, s'il n'apporte pas une révolution dans leur vie, alors certainement cette personne est en train de mentir. Ceux qui disent que Na'oudhou Billah, le Messie premier alayhi salam, est un menteur, est un imposteur, doivent examiner de plus près la situation. Le Messie premier alayhi salam a-t-il apporté des innovations? A-t-il ajouté quelque chose ou a-t-il retiré quelque chose de cette loi? Ou a-t-il demandé à ses suivants de suivre tous les préceptes du Saint-Coran? Lisez ces livres et partout, vous allez voir qu'il est en train de prodiguer ces mêmes conseils, c'est-à-dire mettez en pratique le Saint-Coran. A-t-il diminué le nombre de prières quotidiennes ou a-t-il abrogé quelques pratiques de l'islam? Ou a-t-il ajouté ou retiré quelque chose de la sunna du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui? Ou a-t-il présenté ses enseignements dans leur état originel, dans leur état des plus sublimes? Si on examine la situation, l'on constatera qu'il a lustré ses enseignements de l'islam et nous les a présentés tels quels. Le Messie premier alayhi salam est venu rétablir l'enseignement du Saint-Coran qui a été oublié par les gens. Et il est venu suite aux prophéties du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et on doit voir de plus près si sa jamaat est en train de progresser ou est en train de régresser, ou que si sa jamaat est en train de diminuer ou que son progrès est en train de stagner. Cela ne concerne pas uniquement des membres d'une famille, mais cela concerne des milliers de familles et cela concerne des groupes et des milliers de gens qui sont en train de se joindre à la communauté. Et comparé à cela, regardons ces musulmans qui ont rejeté le Messie premier alayhi salam. Depuis plusieurs décennies, ils sont empêtrés dans les débats stériles concernant l'abrogation de certains versets du Saint-Coran. Ils sont divisés en groupes et ils sont en train d'amplifier l'importance des questions mineures et sont en train de s'éloigner de certains des commandements du Saint-Coran. Et ils ont inventé de nouvelles pratiques qui n'ont aucun lien, même de loin, avec l'islam. Partez par exemple au Pakistan, en Inde ou dans d'autres pays, où vous allez voir que les gens sont en train de prier sur les tombes des défunts en implorant leur aide. Ils sont en train d'implorer des soi-disant saints qui ne prient même pas. Ils demandent aux gens décédés. Tout cela existait-il à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, ou le Saint-Prophète lui-même a-t-il donné des directives en ce sens? Donc ces gens ont inventé tout cela. Et ensuite, plus tard, quelqu'un s'est proclamé prophète et s'est donné le titre de Baha'u'llah. Cette personne a déclaré qu'elle vient de la part de Dieu. Mais elle n'a pas pu prouver sa véridicité car elle ne jouissait pas du soutien de Dieu. Nous ne voyons pas des signes du soutien de Dieu. Il n'a pas présenté de signes. Et ensuite, il a voulu abroger la charia de l'islam, cette charia qui doit perdurer jusqu'au dernier jour. Certes, pour un certain temps, il a eu grand nombre de personnes qui le suivaient, mais sa renommée n'était rien face à la renommée du Saint-Coran et de la charia. Au contraire, ceux qui acceptent la charia de Baha'u'llah sont peu en nombre. Ces personnes n'ont aucune importance. Et aujourd'hui aussi, le Saint-Coran est en train de se répandre dans le monde en dépit du fait qu'il est la cible des attaques bien préparées, en dépit du fait qu'il est la cible des sarcasmes des autres. C'est par l'entremise de la Jamaat Ahmadiyya que des milliers de gens sont en train de suivre le Saint-Coran et sont en train de préparer leur salut dans l'au-delà. Allah déclare donc que les menteurs n'auront point de succès. Voilà donc comment avoir le succès. Réunir un groupe de gens ou amasser des biens ne sont pas des signes du progrès. Le fait que cet enseignement de Dieu soit pratiqué par des milliers de gens, le fait que cela progresse, voilà le vrai succès. Et les prophètes qui sont venus pour cet objectif atteignent cet objectif avec des signes évidents et ils sont accompagnés de signes célestes et terrestres. Voilà donc les gens qui jouissent de l'aide de Dieu. Voilà donc la preuve qui atteste de la véracité du Messie promis à l'Islam. Donc, ceux qui veulent mettre les Ahmadis et les Bahaïs dans le même panier doivent réfléchir davantage. Ces gens doivent juger selon la norme établie par Allah et doivent voir si ces deux groupes sont similaires. Ensuite, il est dit que celui qui est venu avec la vérité et des signes évidents et celui qui est soutenu par Dieu, cette personne ne peut attribuer des mensonges à Dieu. Cette personne vient réellement de la part de Dieu. Dans tous ces versets que j'ai cités, le même sujet a été évoqué, à savoir qui est pire que celui qui attribue des mensonges à Dieu. Et ensuite, il a déclaré qui est celui qui est pire que celui qui n'accepte pas celui qui a été envoyé par Dieu. Il est dit que celui qui ne l'accepte pas est en train de rejeter le sidq, c'est-à-dire la vérité. Ensuite, il est dit qu'il rejette la vérité, encore une fois. Ensuite, il est dit qu'il est en train de rejeter les signes de Dieu. Donc, celui qui vient de la part de Dieu est véridique dans ses paroles et dans l'apport de son message. Certainement, cette personne vient de la part de Dieu. Lorsqu'elle apporte un message, ce message est vrai, ce message vient de la part de Dieu, et il est évident que ce message vient de la part de Dieu. Et ce message est soutenu par les signes de Dieu et soutenu par l'aide de Dieu. Dans les versets suivant, Allah a déclaré que ces gens qui acceptent ce qui est venu de la part de Dieu, ceux qui marchent sur la taqwa, ces personnes verront ce qu'elles désireront. Ces personnes seront satisfaites de leur situation, ces personnes seront rassurées, ces personnes auront le désir d'accomplir des actes de vertu. Il est dit ici qu'on va leur accorder ce qu'ils désirent. Cela ne veut pas dire que ces gens vont désirer uniquement les choses éphémères de ce bas monde. Mais en évoquant la taqwa, il est dit que ces gens auront comme premier désir d'avoir le plaisir de Dieu. Et c'est ainsi qu'Allah va leur accorder ses faveurs. C'est ainsi que leurs désirs seront en accord au désir de Dieu. Et à propos de telles personnes, Allah déclare « Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhira » à savoir qu'ici-bas nous sommes vos amis et dans l'au-delà aussi nous serons vos amis. Tout cela parce qu'Allah récompense les mohsinin. Allah récompense ceux qui accomplissent de bonnes œuvres et Allah leur accorde le paradis ici-bas et dans l'au-delà. Ce sont des gens qui accomplissent leurs bonnes œuvres avec constance. Ce sont des gens qui marchent sur les voies de la taqwa. Ce sont des gens qui sont fidèles envers Dieu. Dans le verset suivant, Allah a expliqué cela davantage en disant qu'en acceptant celui qui est venu de la part de Dieu, puisqu'ils sont en train de faire des efforts pour marcher sur les voies de la taqwa, puisqu'ils accomplissent de bonnes œuvres, alors certainement, ils seront protégés des conséquences de leurs faiblesses humaines. Ils seront protégés des conséquences de ces actions qui déplaisent à Dieu. Car auparavant, ces gens faisaient des efforts dans la bonne direction. Ces gens avaient de bonnes intentions. Voyez à quel point Allah accorde des faveurs à ses serviteurs. Il déclare que la punition pour une erreur ou pour un péché est égale à l'importance du péché, mais pour chaque bonne œuvre, la récompense de ces gens sera multipliée par 10. À part la situation de la personne qui s'entête à commettre des péchés, les récompenses des bonnes œuvres vont repousser les péchés. Et Allah va certainement le protéger des conséquences néfastes de ses actes. Et Allah lui accordera les récompenses pour ses bonnes œuvres. Ici-bas, cette personne sera davantage enclin à faire le bien. Cette personne va transformer sa vie ici-bas en paradis et dans l'au-delà, il va certainement mériter le paradis de Dieu. En acceptant donc celui qui est venu de la part de Dieu, l'on atteint le stade où l'on a cette tranquillité au cœur. Et le fait que l'on progresse dans ces domaines est un autre signe en faveur de celui qui est venu de la part de Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce d'Allah, les Ahmadis en sont témoins. Et même les nouveaux venus ont cette tranquillité au cœur. Et c'est un signe qui les fait progresser dans leur foi. Quotidiennement, je reçois d'innombrables lettres en ce sens. Et ensuite, Allah a déclaré « Alaysallahu bikafin abdahu » « Allah n'est-il pas suffisant à son serviteur ?» Ici, il nous a rassurés davantage. Les infâmes disent que le prophète est un imposteur. Ces gens sont coupables d'infamie. Et ces gens sont eux-mêmes coupables. Et Allah déclare que c'est l'enfer qui sera leur dernier lieu de séjour. Et quant à ceux qui acceptent ce prophète, Allah leur pardonnera leurs excès de conduite. Ils seront récompensés et pourront progresser davantage dans la taqwa. Allah a déclaré que n'est-il pas suffisant à son serviteur? Il est en train de s'adresser à ceux qui rejettent les prophètes en disant que vous ne pourrez pas nuire à mon envoyé car il est soutenu par moi et je soutiens aussi ceux qui l'acceptent. La vie du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, en est témoin. À chaque instant, Dieu a soutenu le saint prophète et ses compagnons. À chaque instant, Dieu a aidé le saint prophète, paix soit sur lui, et ses compagnons. Certes, les musulmans sont tombés en martyrs au cours des batailles, mais leur perte était minime face à celle de l'ennemi, et l'ennemi n'a pas pu atteindre son but, c'est-à-dire détruire l'islam. Et jusqu'aujourd'hui, nous constatons que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et le saint Coran sont la cible des viles et ignobles attaques des ennemis de l'islam. Mais ces gens n'arrivent pas à nuire à l'islam. Et parmi les musulmans aujourd'hui, il y a un groupe des gens qui sont en grand nombre qui essayent de mettre en pratique les vrais enseignements de la charia. Cela prouve donc que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, vient de la part de Dieu et qu'il a été envoyé jusqu'au jour de la résurrection et que sa charia est vivante et va rester vivante. Et les efforts et les menaces des ennemis de l'islam n'ont pas pu nuire à l'islam dans le passé et ne pourront pas nuire à l'islam au futur. Allah déclare que je suffis à mon serviteur, je vais protéger mon serviteur des assauts de ses ennemis. Et c'est pour cette raison que Dieu a envoyé le serviteur parfait du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, afin d'arrêter les assauts des ennemis de l'islam. Ainsi seulement les musulmans pouvaient comprendre cette vérité, et si seulement ils pouvaient se joindre à l'armée de ce champion de Dieu, et afin qu'il soit parmi ceux qui méritent tout le temps l'aide de Dieu. Ici, il a été dit, Alayhissalahu bikafin abdahu, que signifie le terme abd, ou serviteur de Dieu? Toute personne qui naît sur terre est une créature de Dieu et sert Allah. Mais le vrai abd est celui qui s'est asservi complètement à Dieu. Celui qui vient aider sa religion, celui qui est parmi ceux qui disent « Nahnu Ansarullah ». Ceux qui sont en train d'adorer Dieu et ceux qui mentionnent tout le temps la grandeur de Dieu, ceux qui ont un grand amour pour Dieu et ceux qui ont un très grand sens de l'honneur pour Dieu. Voilà donc les vrais abdes. Et le niveau le plus élevé dans ce domaine et le niveau atteint par le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, un niveau que personne ne peut dépasser. Et Allah a déclaré que Dieu lui suffit. Dieu lui a accordé sa protection contre tout ennemi dans des situations qui dépassent l'entendement humain. Dans des situations où personne d'autre à part Dieu ne pouvait lui accorder sa protection. Voyez comment Dieu lui accordait sa protection lorsqu'il était dans la grotte. Voyez comment ses poursuivants se sont mis à ses trousses en convoitant la récompense promise sur sa tête. Et comment Allah lui accordait sa protection. Comment Dieu lui a suffi au cours des batailles. Comment Dieu lui a suffi lorsqu'il était seul et que l'ennemi a brandi son épée et qu'il a déclaré qu'Allah me suffit. Et voyez ce qui s'est passé au cours de la vie de ses compagnons. Tout cela prouve la véracité du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, comment Dieu lui était suffisant et comment Dieu a suffi à ses serviteurs, ceux qui essayent d'être les vrais hommes de Dieu, ceux qui n'ont pas de crainte des hommes. Ces gens se sont consacrés entièrement à Dieu et ces gens ont reçu la bonne nouvelle qu'Allah était content d'eux. Et quant à ceux qui étaient les koufars, quant à ceux qui étaient destinés à s'égarer, ces gens sont arrivés à leur fin et Allah déclare qu'Allah guide celui qu'il veut guider. Et quant à celui qui est déclaré égaré, pour lui, il n'y a aucun guide. Donc, afin d'être guidé, il faut se prosterner devant Dieu. Pour progresser dans la foi, il faut se prosterner devant Dieu. Et après avoir été guidé, on doit tout le temps se prosterner devant Dieu afin de jouir de cette direction tout le temps. Quant à ceux qui sont guidés, ils sont les vrais abdes de Dieu. Et ces gens savent que c'est en cela que réside leur salut. Ils savent aussi que la suprématie réelle vient de la part de Dieu. Et ils savent aussi que quant à ceux qui essayent de nuire à la Jama'a de Dieu, ces gens ne peuvent pas se protéger du courroux de Dieu. Et Allah se venge contre ceux qui se liguent contre ses choisis. Et ici-bas ou dans l'au-delà, Allah châtie ces gens. Et aux yeux d'Allah, c'est très grave que de s'opposer à ses bien-aimés. Et pour cela, Allah montre ses signes, Allah montre sa gloire. Et dans certains cas, ces gens deviennent des signes du courroux de Dieu. Et ces gens ne trouvent pas de refuge ici sur terre. Tout comme Allah l'a déclaré, et en fin de compte, dans l'au-delà, ils ne seront pas traités différemment. Voilà les signes de Dieu. Voilà comment Dieu prouve la véracité de ses choisis. Il ne se contente pas de prouver la véracité de ses choisis, mais il leur accorde sa protection contre leurs ennemis. Et tout le temps, il montre des signes en leur faveur. Et dans certains cas, ces gens sont châtiés ici-bas, et ces gens deviennent des signes de la colère de Dieu. Et dans l'au-delà, leur châtiment sera des plus affreux. Les bien-aimés de Dieu et ceux qui acceptent ces gens reçoivent ces bonnes nouvelles que Fadrulli fi ibadi. Ce sont des gens qui marchent sur les voies de la taqwa et qui méritent les grâces de Dieu. Et celui qui a atteint l'apogée dans ce domaine est le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, tout comme je l'ai déclaré auparavant. C'est à raison du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'Allah suffit aussi à ses serviteurs. Et c'est en raison du saint prophète, paix soit sur lui, qu'il a montré ses signes en leur faveur. Et le meilleur des esclaves du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, est le Messie promis, alayhi salam, lui-même. Celui à qui Allah a révélé à plusieurs reprises cette partie du verset, alayhi salahu bikafin abdahu. Allah lui a révélé cela la première fois lorsqu'il lui avait informé du décès de son père. Allah lui avait révélé cette partie du verset, alayhi salahu bikafin abdahu. À savoir, Allah n'est-il pas suffisant à son serviteur? Allah a déclaré que d'une part, tu te dis être mon serviteur et moi-même, j'ai prouvé mon amour envers toi et tu sais très bien que tu es mon serviteur et que j'ai prouvé mon amour en ta faveur. Et cette révélation, alayhi sallahu bikafin abdahu, est un témoignage de cet amour. Allah a déclaré qu'après la mort de ton père, tu ne dois pas te soucier à propos de ta subsistance. Je suis avec toi. Et ensuite, pour tout le temps, Allah lui a libéré de toute anxiété concernant sa subsistance. Non seulement qu'Allah lui a libéré de ses soucis, mais grâce à lui, Allah a nourri tout un monde. Et jusqu'à présent, cela continue. Et à plusieurs reprises, il a reçu cette révélation. Et cela ne concernait pas uniquement sa subsistance, mais Allah lui a accordé sa protection contre tous les assauts de l'ennemi. Et Allah suffisait tout le temps au Messie promis, alayhi salam. Dans certains cas, Dieu s'est vengé immédiatement et ces gens ont mérité le châtiment de Dieu. Ces gens étaient des signes du courroux de Dieu. Au cours de la vie du Messie premier, nous voyons d'innombrables signes de ce genre. Dieu suffisait à son maître, le saint prophète Mohammed, et de même, Dieu a suffi au Messie promis, alayhi salam, en raison du fait qu'il s'était asservi sincèrement au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Lorsque l'ennemi s'est attaqué à lui en lui intentant des procès ou en utilisant d'autres méthodes, Dieu lui a toujours accordé sa protection. Il y a certains qui ont fait des dépositions contre lui et la police est même venue chercher ou fouiller sa maison. Mais Allah lui a tout le temps accordé son soutien. Dans le Saint-Coran, en s'adressant au Saint-Prophète Mohammed, paix soit sur lui, Allah a déclaré que « Continue ta tâche et laisse les koufars commettre leur vilenie, laisse-les à leur persiflage. » Et il a déclaré « Inna kafaynaka mustahzi'in » Certainement, nous te suffisons contre ceux qui persiflent. Et nous avons vu quelle fut la fin des ennemis de l'islam et comment Dieu s'est vengé contre eux. Allah a aussi déclaré au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, qu'il doit déclarer et annoncer que « Fattabi'uni yuhibbukumullah » « Suivez-moi » et Allah va vous aimer. Et celui qui d'entre tous a suivi à la perfection le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, c'est le Messie promis à l'islam. C'est pour cette raison qu'Allah lui a accordé le rôle de réunir toute l'humanité sous la bannière de la foi unique. Et tout cela était en raison de l'amour qu'il éprouvait pour le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Et c'est pour cette raison aussi qu'Allah lui a révélé certaines parties de ces versets. Et ce verset, Inna kafaynakal mustahzi'in, est une des révélations reçues par le Messie premier alayhi salam. Et à plusieurs reprises, Allah a avili ses ennemis. Et à plusieurs reprises, donc, les ennemis ont été humiliés, mais puisque ces gens n'ont plus de sens de l'honneur, ces gens sont insensibles à ces faits, et ils n'acceptent pas qu'ils ont été humiliés, qu'ils ont été avilis. Et il y avait des soi-disant grands érudits, des gens qui se considéraient comme de grands personnages honorables. Lorsque ces mêmes personnes ont intenté des procès contre le Messie premier l'Islam, ces gens ont subi de graves humiliations. Il y avait Maulvi Mohammad Hussein Batalvi qui a vu le Messie premier l'Islam assis au cours de son procès et lui-même a demandé une chaise et le juge a refusé de lui accorder une chaise. Et lorsqu'il est sorti à l'extérieur, le surveillant lui a refusé une chaise. Donc, ces gens ont fait face à de telles humiliations, mais on comprend cela tant que l'on est encore conscient. En tout cas, il y a de nombreux signes de ce genre dans la vie du Messie premier l'Islam. Aujourd'hui, ceux qui n'acceptent pas le Messie premier l'Islam ne pourront jamais atteindre leur but. Inch'Allah, ils ne pourront jamais atteindre leur but. Quotidiennement, nous voyons des signes de la véracité du Messie premier à l'Islam. Donc, à chaque occasion, Dieu prouve qu'il suffit. Et en voyant cela, nous progressons dans notre foi. Tout Ahmadi doit réfléchir en ce sens et doit progresser dans sa foi. Il ne doit pas regarder ces signes superficiellement. Et ensuite, ils doivent prouver leur reconnaissance envers Dieu et doivent faire des efforts pour être de ceux à qui Dieu suffit. Et cela va se faire uniquement lorsque nous allons marcher sur les voies de la taqwa, lorsque nous allons établir une relation avec le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, lorsque nous allons établir une relation et progresser dans cette relation avec le Messie premier l'Islam. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous sommes de ceux qui voient l'accomplissement des promesses de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes de ceux qui ont cette vraie relation avec le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Nos ennemis peuvent nous bouffondre, peuvent persifler, peuvent nous diffamer ou nous traîner dans la boue, mais Allah nous suffit maintenant, tout comme il nous suffisait dans le passé et à l'avenir aussi, il va nous suffire. Ces oulémas du mal et ces soi-disant intellectuels, ces gens qui sont dans le judiciaire au Pakistan, ces gens essayent de nuire aux suivants du Messie premier l'Islam. Je vais vous présenter un autre incident de ce genre. Quelque temps auparavant, on a intenté un procès contre les Ahmadis à l'Alkana. Et la cause de ce procès, que des mollahs avaient placardé des affiches quelque part, et on a dit qu'un Ahmadi a déchiré ses affiches ou que des Ahmadis ont déchiré ses affiches. Mais ces allégations étaient complètement infondées. Mais nous sommes de ceux qui sont patients et nous pouvons écouter des insultes sans broncher. Voilà la patience que nous a enseigné le Messie premier de l'Islam. Mais quant à nous, nous n'avons jamais essayé de nous venger. Si ces gens réfléchissent davantage, ils vont constater que c'est Allah lui-même qui à plusieurs reprises se venge contre ceux qui essayent de nuire à la Jamaat du Messie premier alayhi salam. La police a donc intenté un procès. On a présenté cela à une juridiction inférieure et on n'a pas eu de caution et on a présenté cela au tribunal de grande instance. Et le juge Rana Zahid Mahmoud a essayé de plaire à ses dieux et son jugement est des plus abusif. Il a déclaré que les coupables qui outragent les saints n'ont pas le droit de demander justice. Selon nous, les Ahmadis, le plus saint est le saint prophète Mohammed, peace soit lui, et aucun Ahmadi ne peut penser outrager la mémoire du saint prophète Mohammed, peace soit lui. Nous sommes le serviteur des serviteurs du saint prophète Mohammed, peace soit lui, et nous ne sommes pas de ceux qui outragent les compagnons du saint prophète Mohammed, peace soit lui. Si aux yeux du juge, les mollahs d'aujourd'hui sont les saints, alors qu'ils sachent que certes, nous ne dénigrons pas ces mollahs, mais nous ne pouvons pas non plus les louer et faire leur éloge. Seuls ces juges peuvent faire les éloges de ces mollahs. Quant à nous, nous allons tout le temps chanter la gloire du saint prophète Mohammed, paix soit lui, et faire son éloge et l'éloge des gens qui sont réellement saints. Nous qui avons reconnu le statut véritable du saint prophète Mohammed, paix soit lui. Voilà l'état du judiciaire aujourd'hui au Pakistan, mais cela dure depuis bon nombre d'années. Nous n'attendons rien de leur part. Nous comprenons réellement les attributs de Dieu et nous implorons uniquement Dieu et nous nous prosternons uniquement devant Dieu et cela nous suffit. Mais ces gens vont certainement mériter le châtiment de Dieu. Mais ils ne comprennent pas. Et Allah a déclaré qu'il est pire que celui qui rejette celui qui a été envoyé par Dieu. Les intellectuels du Pakistan doivent réfléchir et ne doivent pas inviter le courroux de Dieu. Alors que nous voyons les signes du courroux de Dieu, il est encore temps pour arrêter cela. Et la seule façon de le faire est d'implorer le pardon de Dieu. Ils n'ont pas de méthode pour prouver que ce qu'ils disent contre nous est la vérité. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, a déclaré qu'il n'y a pas de méthode pour connaître le fond du cœur d'une personne. Mais en notre cœur, il y a tout un océan d'amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui. Et quant à vous, vous ne pouvez même pas vous approcher de cet océan. Je m'adresse aussi aux gens en général au Pakistan. Et je leur dis de cesser de suivre ces mollahs aveugles et de ne pas inviter leur destruction. Au lieu d'inviter la colère de Dieu, essayez de jouir de la protection de Dieu. Qu'Allah nous protège tout le temps de leur mal. Au Pakistan, à chaque occasion, les mollahs soulèvent les gens contre les Ahmadis et de temps en temps on assassine des Ahmadis, et tout cela est en raison de cette loi infâme passée par l'État du Pakistan. Et c'est en raison de cette loi que maintenant il n'y a plus de loi au Pakistan. Et aujourd'hui, il n'y a plus de loi au Pakistan. Aujourd'hui, encore une fois, je vais vous présenter une triste nouvelle. Notre frère Ahmadi Mokaram Said Ahmad Saheb, fils de Chaudhry Ghulam Qadir Saheb et habitant de la ville de Kochi, a été assassiné. Il était 21h du soir lorsqu'il retournait du magasin où il travaillait, et avant d'entrer chez lui, quelqu'un lui a tiré dessus et il est tombé en mortier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Cette personne rendait de grands services à tout le monde. Lorsqu'il savait que quelqu'un était malade, il se présentait pour aider cette personne. C'était une personne simple, sincère, une personne qui faisait de grands efforts, une personne qui était prêt à tout faire. Il avait un très grand sens de l'hospitalité, il avait aussi une très grande patience. Et il ne répondait jamais avec colère, et il était tout le temps circonspect. Il n'avait aucun ennemi. Il a été enterré à Sindh. Il a laissé deux fils et deux filles. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah accorde la patience à ses enfants et à son épouse. Et après la prière de Juma et d'Asr, je vais diriger sa prière Janaza. Il y a aussi un autre serviteur de la communauté, Rana Muhammad Khan Saheb, qui fut amir du district de Barwal Nagar et est décédé le 21 janvier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a servi la communauté en tant qu'amir pour plus de 40 ans. Il était directeur de la Fazli Umar Foundation. Il était membre de plusieurs comités. C'était une personne simple, pieuse, qui avait un grand amour pour le califat, une personne qui avait laissé de bonnes impressions sur tout le monde. Et après le transfert du califat ici au Royaume-Uni, tout le temps, chaque année, il venait pour la Jalsa. Il n'était pas présent au cours des deux dernières années, mais il m'avait écrit et ses paroles étaient empreintes d'émotion. Et il avait exprimé son désarroi. Qu'Allah exalte son statut. Il a laissé son épouse, trois fils et deux filles, et son fils Rana Nadim Ahmad Khalid, et le principal de l'école secondaire de la Nusrat Jihan Scheme à Kampala. Qu'Allah fasse qu'ils puissent suivre les voies de leur père.